Les temps qui courent.
Steppe d'Arabie, ce matin, un premier volet, Histoire, la cohabitation des nomades et des sédentaires, une émission proposée par Lison Méric et Pierre Schlegel.
Ce sont des zones qui sont au contact entre les régions normalement peuplées, d'une part, et le désert, d'autre part. Ce sont des zones de marge, comme on dit. Ce sont des régions qui sont, suivant les années, ou suivant des séries d'années, tantôt très sèches et tantôt relativement humides, et permettant, par conséquent, une relative occupation et mise en valeur. Ce sont des zones où il y a, en année humide, des cultures, de l'élevage qui est relativement fécond, intéressant. Et puis, à d'autres moments, au contraire, c'est le vide parce qu'il n'y a pas de pluie pendant plusieurs années et que les gens sont obligés d'abandonner la région ou d'y vivre dans des conditions vraiment très difficiles. Cette zone que l'on a étudiée, là, il ne faut pas oublier que c'est le fameux croissant fertile, c'est-à-dire la zone où sont apparues pour la première fois la domestication des plantes et des animaux, et puis une occupation sédentaire. Cette zone, donc, est une région extrêmement importante pour l'homme, mais si on remonte loin dans le temps, et sans aller à des millions d'années, bien entendu, on s'aperçoit qu'au cours des siècles et des millénaires, il y a eu des sortes de pulsations climatiques et par conséquent, alternance, succession de périodes où cette zone a été vide parce que désertique ou au contraire beaucoup plus peuplée parce que les conditions climatiques étaient plus favorables.
Les steppes ou les zones sèches qu'on trouve en marge des déserts constituent des écosystèmes humains et naturels particulièrement fragiles. Des écosystèmes où les hommes ont depuis toujours fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation aux conditions climatiques difficiles. Qu'en est-il aujourd'hui, où la pression à la fois démographique et économique sur ces zones se fait de plus en plus forte? C'est ce que nous essaierons de comprendre dans cette série de deux émissions consacrées aux steppes d'Arabie, avec ce matin Paul Sanslaville, Ronald Jaubert, Ricardo Bocco et Olivier Orange. Mais tout d'abord, comment définir les steppes? Paul Sanslaville, géographe.
Ce qui caractérise une steppe, c'est en premier lieu, disons, une végétation, si on emploie le terme de steppe. Alors ce qui caractérise le livre, c'est que finalement, on ne parle pas des steppes parce qu'elles ont disparu. On a pris le terme de steppe par référence historique. C'était un milieu qui a très longtemps été occupé par la formation végétale de type steppique. En fait, on se réfère maintenant plus aux zones sèches, aux zones arides, en ce qui correspond au Moyen-Orient à des zones où on a des très fortes contraintes climatiques, notamment un déficit hydrique.
C'est-à-dire qu'il n'y pleut pas ?
Il n'y pleut pas. Et il n'y pleut pas pendant 4, 5, 6 mois de l'année, suivant le type de zone dans lequel on se trouve. Ça correspond au Moyen-Orient à 80-90% du territoire, suivant les pays dans lesquels on se situe.
Donc c'est pour bien dire que ça n'est pas, à proprement parler, une zone marginale dans cette région.
Et souvent classée comme zone marginale ou comme zone de transition. C'est-à-dire on la définit comme étant la zone entre le désert vrai et puis les zones de culture plus favorables qui ont été colonisées et sédentarisées depuis des milliers d'années. Mais donc il y a toujours cette idée de transition ou de marge. Elle a été vraie d'un certain point de vue économique, enfin tout dépend de notre point de vue, mais c'est faux en termes de surface. 80%, 90%, c'est pas marginal. Et c'est de moins en moins marginal maintenant quand on voit l'évolution économique et la pression qu'on a sur ces zones.
Alors on reviendra peut-être à cette notion de pression sur ces zones. Ricardo Bocco, quels sont les pays qui sont concernés? Simplement pour qu'on puisse les placer sur la carte.
Bon, je crois que si on regarde la carte du Proche-Orient et de la péninsule arabique, on a des pays, bien entendu, comme l'Arabie saoudite, qui est un pays à 90% steppique et désertique. On a la Jordanie, à environ 90% pays steppique et désertique, la Syrie pour environ 80%, l'Irak au moins pour plus de 60%, en descendant à nouveau vers le Golfe arabe ou persique, bien sûr la totalité des Émirats du Golfe, donc Oman, en descendant le Yémen du Sud et une petite partie du Yémen du Nord. Mais globalement, ce qu'on peut affirmer, c'est que dans la région péninsule arabique et Proche-Orient, pris dans son ensemble, entre 80 et 90% du territoire est steppique ou désertique. Je voulais juste revenir sur le mot steppe, qui a été un choix, disons en partie double, dans le sens où, dans le langage, dans la langue française, steppe, il a bien expliqué ce que signifie Ronald Joubert, en arabe, le mot steppe est traduit par badia. Et contrairement à l'usage plus en vigueur dans des pays du Maghreb ou d'Afrique du Nord, où on parle le plus souvent de Sahara, de désert, le mot Sahara est très peu utilisé ou rarement utilisé dans les régions proche-orientales et de la péninsule arabique. On utilise davantage le mot badia, souvent en mélangeant au fond ce qui est à la fois la steppe et le désert à proprement parler. Mais le mot badia est extrêmement important dans ce contexte parce que c'est lui qui est à l'origine du mot arabe badou, qui signifie, qui a été glossé comme bédouin. Donc les habitants de la badia, de la steppe, sont les bédouins. Il y a là tout un référent à la fois linguistique, symbolique, hautement évocateur, etc.
Oui, parce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant les caractéristiques environnementales ou physiques de la steppe, mais ces caractéristiques-là déterminent un mode de vie. Ricardo
Bocco ?
Absolument.
Disons, dans le cadre du mode de vie, ce qu'on a cherché à expliquer, à présenter dans le livre, c'est au fond la transformation historique des modes de vie, transformation à la fois interne aux sociétés des pasteurs nomades et induite de l'extérieur sur environ la période qu'on examine est environ celle d'un siècle, entre la fin du 19e et la fin de ce siècle, avec des percées plus lointaines, mais disons le gros de la réflexion est centré sur ce dernier siècle, où l'on voit effectivement une grande transformation qui est un mouvement vers un processus que l'on appelait de sédentarisation des populations de pasteurs nomades. Or, ce qu'il faut faire attention lorsqu'on emploie le mot sédentarisation, c'est de savoir tout d'abord que c'est un phénomène historique qui n'est pas nouveau dans la région. On a assisté à des mouvements de sédentarisation, de désédentarisation ou de nouvelles nomadisations dues à différentes raisons, différentes causes, à la fois écologiques, politiques, économiques, etc. Mais ce qu'on peut observer au cours de ce dernier siècle, eh bien, ce mouvement de sédentarisation, initié déjà à la fin du 19e siècle, sous pression des autorités ottomanes, à l'époque, toute la région était sous le contrôle de l'Empire ottoman, nominale ou effective selon les régions, mais cette politique de sédentarisation s'est consolidée à la fois au moment de la création des mandats sur une série d'États de la région, de création de nouveaux États, et elle a été renforcée à partir des indépendances, en gros, à partir de la moitié des années 40, avec de plus l'intervention des organisations internationales, en grande partie les organisations onusiennes, qui ont si on peut ainsi dire, mis le gros paquet sur les politiques de sédentarisation des pasteurs nomades. Alors, il y a peut-être deux idées à retenir, c'est que, dans un premier moment, le mouvement vers la sédentarisation, comme politique choisie par des États, soit-il l'Empire ottoman, les États mandataires coloniaux ou les nouveaux États indépendants, il y avait un problème de sécurité politique dans les steppes qu'il fallait assurer et les politiques de sédentarisation, de fixation des nomades étaient perçues comme les politiques les plus aptes à amener un degré maximal de sécurité dans les steppes.
Ce qui voulait dire qu'on voulait contrôler cette population ?
Absolument. Il y avait un problème de contrôle de ces populations. Or, le mythe ou des idées reçues, des visions sur le bédouin, souvent tendent à donner des portraits des sociétés bédouines comme des sociétés insoumises et dangereuses pour le pouvoir sédentaire établi. Or, ce qu'on peut aujourd'hui largement démontrer, c'est que dans le cadre du Proche-Orient et de la péninsule arabique, les tribus nomades, des pasteurs nomades, n'ont jamais constitué en tant que tribus un véritable défi politique à des empires ou des États présents dans la région. Ils constituaient bien sûr des éléments, des facteurs qui pouvaient déranger, qui étaient un facteur d'instabilité, d'insécurité. Mais on n'a jamais assisté historiquement à des tribus nomades qui aient sérieusement menacé les pouvoirs sédentaires. La situation dans ce cadre géographique n'est pas rapprochable à celle de la Mongolie ou de l'Asie centrale ou même de l'Iran, où le pouvoir politique, militaire, guerrier des tribus nomades était hautement supérieur.
En fait, le danger perçu face aux tribus nomades est beaucoup plus au niveau de l'imaginaire, dans la tête du sédentaire ?
Tout à fait, tout à fait.
Ronald Jaubert, agronome et économiste.
Voilà, alors là, c'est l'archétype de cette opposition entre deux modes de société qu'on peut caricaturer en effectivement en disant d'un côté le nomade, de l'autre côté le sédentaire, d'un côté l'agriculteur, de l'autre côté l'éleveur. Bon, ça, ce sont les deux extrêmes. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'entre les deux, il y a toute une gamme de modes de vie intermédiaires qui sont nés et qui font en quelque sorte la spécificité de la steppe. C'est justement cela qui, à mon avis, est intéressant, c'est que ce type d'environnement a provoqué en quelque sorte une adaptation particulière avec une gamme de réponses extrêmement variées à partir des deux extrêmes qu'on vient de définir. Mais la steppe, à proprement parler, n'est ni tout à fait l'un ni tout à fait l'autre. Il n'est jamais ni tout à fait l'un ni tout à fait l'autre. Et la steppe est précisément cet espace qui est parcouru par celui qui part du terroir agricole et qui s'en va loin et qui traverse la steppe et qui traverse ensuite un désert et qui traverse ensuite un océan, éventuellement. Mais la steppe va toujours être l'endroit qui sera le dernier traversé, le premier traversé au moment où on part et le dernier traversé au moment où on revient, si vous voulez. Et donc, c'est cela, ce qui, de mon point de vue, du point de vue de l'occupation humaine, fait la spécificité de la steppe. C'est-à-dire que lorsque un citadin voit arriver quelqu'un qui vient de loin, il ne sait pas très bien si c'est quelqu'un qui vient du désert ou si c'est quelqu'un qui a traversé l'océan. Ce qu'il sait, c'est que c'est quelqu'un qui forcément a traversé la steppe parce que c'est le dernier territoire qu'il a vu. Et c'est vrai que dans l'imaginaire du citadin, la steppe s'est très souvent assimilée au désert parce que la steppe était traversée par celui qui venait du désert, mais en fait la steppe était aussi peuplée par des sédentaires. Et c'est là toute l'ambiguïté de ce territoire marginal, comme on l'a dit.
Par des sédentaires qui pratiquaient une agriculture en parallèle de l'élevage ?
Tout à fait, une activité complémentaire. C'est-à-dire que les années, dans la steppe, les années où on cultive, bon, on plante, si ça pousse, tant mieux, si ça pousse pas, tant pis. Et de toute façon, on sait qu'on peut compter sur son troupeau qui, lui, lorsque on a maîtrisé les techniques, parce qu'il y a quand même une maîtrise de techniques d'élevage qui est importante, on sait qu'on peut compter sur un troupeau qui, lui, va s'adapter en bougeant, c'est-à-dire en allant en fonction des saisons et en fonction des pâturages, va se déplacer à l'intérieur d'un territoire. Donc c'est pour ça que le nomade est mobile. C'est parce que il est, en quelque sorte, à la suite de son troupeau, qui, lui, a besoin, pour se régénérer, de profiter de certains endroits qui ne sont pas toujours les mêmes suivant les saisons. C'est-à-dire que la steppe est trop pauvre pour permettre une alimentation pour les troupeaux permanentes au même endroit. En revanche, à condition de ne pas surpâturer, à condition de se déplacer au bon moment, on peut trouver, et à condition de disposer d'un territoire assez vaste, on peut trouver de quoi nourrir d'immenses troupeaux pendant toute l'année. Et même, je dirais, dans les périodes relativement mauvaises pour l'agriculture. Puisque la steppe permet, justement par sa gradation, permet d'atteindre des types de territoires extrêmement différents.
Le croissant fertile, c'est cette région du monde où ont été inventées, si vous me passez l'expression, les grandes religions juives, chrétiennes et islamiques. Les modes de vie sédentaires et nomades y ont été en contact et en tension pratiquement depuis toujours. Olivier Orange, préhistorien et archéologue.
Je dirais que ça s'est passé à la fois bien et mal. Ça s'est passé bien parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, de toute façon, et mal parce qu'il y a eu donc la création d'une espèce d'imaginaire chez les sédentaires, un imaginaire rejetant le nomade comme appartenant à un monde qui n'est pas un monde cultivé, qui est un monde un peu sauvage. Et à l'inverse, dans l'imaginaire du nomade, le citadin se présente comme celui qui est, je dirais, avachi dans les délices de Capoue et qui n'a pas besoin pour survivre d'avoir un mode de vie qui correspond à ce que doit être l'humanité. Donc, et ce qui est frappant surtout, c'est que cette double image inversée est en fait extrêmement ancienne. C'est-à-dire qu'elle s'est perpétuée à travers le temps. Et autant qu'on puisse avoir des documents qui permettent de le prouver, il y a une espèce de continuité de ce double mouvement, c'est-à-dire fascination réciproque et répulsion réciproque. C'est-à-dire fascination du nomade qui fascine le citadin parce qu'il est libre, parce qu'il parcourt des grands espaces, parce qu'il n'est pas astreint à rester sur sa terre. Et donc, fascination-répulsion de la part du nomade envers le citadin, qui, pour vivre, n'a pas besoin, lui, de parcourir des kilomètres et d'être affronté aux dangers de la steppe ou du désert, et qui sait que dans son jardin, il aura toujours à boire et à manger. Donc, c'est sur ce double mouvement, fascination-répulsion, que les rapports entre nomades et sédentaires, ou sédentaires et nomades, se sont placés. Le grand problème, c'est que dans l'histoire, ceux qui ont fait l'histoire, ceux qui ont écrit l'histoire, ce ne sont jamais les nomades, ce sont toujours les sédentaires. Donc, dans les sources historiques que nous avons, on a toujours le point de vue du sédentaire et du citadin, jamais ou très rarement le point de vue du nomade ou du semi-nomade. C'est là tout le problème de l'écriture de l'histoire de la steppe, puisque finalement, elle ne peut être perçue que par un seul des deux éléments. Et c'est là toute l'ambiguïté de la reconstitution historique, en quelque sorte, de l'exploitation de la steppe.
Est-ce qu'on peut dire pour autant, Olivier Orange, que le pouvoir ou les pouvoirs ont toujours été sédentaires et ont toujours essayé de réduire d'une certaine manière les nomades ?
Incontestablement, historiquement, on voit que le contrôle de la steppe a toujours été, de la part des royaumes ou des empires de sédentaires, a été la règle. Il faut dire que, malgré tout, à certains moments de l'histoire, certains nomades ont su, en quelque sorte, conquérir une forme de pouvoir, mais forcément au détriment des sédentaires et en adoptant, en quelque sorte, les méthodes des sédentaires. Il n'y a jamais eu vraiment de grand empire ou de grand pouvoir steppique, parce que dès que ce pouvoir se mettait en place, ça a été le cas à un moment donné, c'était la naissance de l'islam, dès que ça s'est mis en place, ce type de pouvoir a à son tour été fasciné par la sédentarisation et s'est en quelque sorte sédentarisé et donc a répété le cycle. C'est une espèce de répétition. L'histoire de la steppe, c'est en fait une répétition d'un cycle entre fascination du nomade pour le sédentaire, ce nomade se sédentarisant, et à partir du moment où il est sédentarisé, il adopte en quelque sorte l'idéologie du sédentaire et va lutter contre le nomade. C'est un espèce de cycle qui s'est produit et je crois que ce que démontre l'histoire de la steppe, parce qu'on la voit sur la longue durée, qui est la seule manière de voir les choses d'un petit peu loin, montre ces cycles répétitifs.
Est-ce qu'on pourrait dire que le mode de vie nomade ou semi-nomade se concilie mal avec une structure de pouvoir ou la maîtrise d'un territoire ?
Non, pas du tout. Parce que la maîtrise d'un territoire, elle est forcément obligatoire pour un nomade ou un semi-nomade qui a besoin de contrôler un territoire. Seulement, il le contrôle avec des moyens qui ne sont pas ceux du sédentaire. Il le contrôle avec des lois non écrites. Les limites des territoires de chaque tribu, chacun les connaît, mais il n'y a pas besoin de les écrire dans des traités, de mettre des frontières, de mettre des postes frontières. Tout ça est complètement étranger à la terminologie du nomade. En revanche, pour un empire sédentaire, il n'est assis que lorsqu'on a une ligne frontière ou un limès, comme l'appelaient les Romains, qui est matérialisé par des constructions. Par exemple, c'est là qu'on voit dans la même zone l'opposition entre pouvoir sédentaire et pouvoir citadin. Car il y a eu, par exemple, des traces à l'époque romaine d'un limès, c'est-à-dire d'une frontière matérialisée en plein désert et en pleine steppe, mais ça n'a duré qu'un temps. Et c'était du fait des sédentaires et non pas du tout du fait des nomades. Donc ce territoire marginal qu'est la steppe a, à toutes les époques, été un enjeu de conquête entre citadins ou sédentaires et nomades ou semi-nomades. Et il y a eu des tentatives, je dirais, de la part des nomades et des semi-nomades de créer en quelque sorte des contre-pouvoirs ou des royaumes ou des empires essayant de faire pièce aux sédentaires. Mais le problème, c'est qu'ils étaient trop dépendants, même s'ils arrivaient idéologiquement à créer un pouvoir, ils étaient trop dépendants des sédentaires et des citadins pour pouvoir s'en affranchir complètement. Et une fois qu'ils étaient de nouveau en contact avec ces sédentaires qu'ils prétendaient remplacer, ils étaient à nouveau pris dans le cycle infernal. Et c'est ça un petit peu l'histoire inéluctable, en quelque sorte, de la steppe. Ce qui frappe sur la longue durée, c'est ce phénomène cyclique, avec des périodes où la steppe, échappant au contrôle des sédentaires, peut devenir la propriété d'un royaume ou d'un empire nomade. Et puis, le cycle s'inverse et le sédentaire reprend le contrôle. Et à ce moment-là, le nomade s'efface en quelque sorte et repart un peu plus loin. Il suffit qu'il reparte un peu plus loin de la ville pour être tranquille à ce moment-là, parce que le sédentaire n'ira jamais, le citadin n'ira jamais le chercher très loin. Il suffit de l'éloigner, puis ensuite, il revient petit à petit, etc. Donc c'est un petit peu l'image du peuplement humain de la steppe, c'est un petit peu l'image de sa définition géographique, c'est-à-dire que tantôt la steppe prend une importance considérable, tantôt elle est réduite à sa plus simple expression. Et en fait, il y a un parallèle assez fort entre le développement géographique, climatique, et le peuplement humain dans ces zones-là.
On peut lire le conflit entre nomades et sédentaires dans l'épisode de la Bible où Caïn, l'agriculteur, tue son frère Abel, l'éleveur. Olivier Orange.
Effectivement, l'épisode de Caïn et d'Abel illustre un petit peu ce phénomène-là, c'est-à-dire fascination-répulsion et puis destruction de l'un par l'autre. Mais ça ne représente que l'une des hypothèses possibles. L'autre hypothèse possible, c'est celle qui est présentée, je dirais, presque à la même époque, même probablement à une époque plus ancienne que le mythe de Caïn et d'Abel. C'est le mythe de Gilgamesh qui, lui, au contraire, représente ce que j'appellerais l'assimilation du nomade par le citadin et non pas la destruction du nomade par le citadin, ou l'inverse. Donc il y a tantôt des conflits qui sont des conflits violents, tantôt des assimilations qui sont des assimilations réussies. Et les deux phénomènes sont aussi en phase, c'est-à-dire que se présentent de façon cyclique. Donc c'est entre ces deux extrêmes que l'on a toute une gamme d'intermédiaires. Un autre point fort, si vous voulez, de l'intrusion de la steppe dans le monde citadin, c'est l'époque de Sargon d'Akkad, au milieu du troisième millénaire, qui est là l'arrivée de quelqu'un qui visiblement était originaire de la steppe, mais qui a été assimilé par les citadins et qui a pris le pouvoir en tant que citadin, mais il devait bien garder quand même quelque part dans sa mémoire le fait qu'il avait été un ancien habitant de la steppe. Donc tous ces épisodes-là, on peut les suivre, si vous voulez, avec une grille de lecture. Sinon, si on place une grille de lecture qui est origine des gens qui tiennent le pouvoir, eh bien on voit une opposition entre détenteurs du pouvoir originaire de la steppe ou détenteurs du pouvoir originaire des villes. Et là, on peut le lire, je dirais, dès qu'on a des textes, on peut le lire assez facilement.
Ce serait donc faux d'imaginer qu'au cours de l'histoire, il y a eu, de manière quasi systématique, victoire du sédentaire sur le nomade.
C'est absolument pas linéaire. C'est absolument pas linéaire, c'est cyclique. Et c'est précisément ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, avec des pouvoirs qui sont des pouvoirs d'une nature différente, les phénomènes sont exactement les mêmes. L'histoire n'est absolument pas plus linéaire que les fluctuations de la steppe, si vous voulez. De même qu'il n'y a pas eu une réduction, une augmentation inéluctable de la steppe à travers le temps, de la même manière, il n'y a pas eu des relations entre nomades et sédentaires à travers le temps. Alors, le seul risque, c'est que, à mon point de vue, qui est un point de vue d'historien, c'est qu'actuellement, la steppe va-t-elle survivre en tant qu'espace? Et donc, est-ce qu'un mode de vie lié à ce type d'espace va pouvoir survivre? À mon avis, c'est ça la vraie question. Et là, on peut se demander si ce fameux cycle ne va pas être définitivement interrompu. C'est ça, et c'est l'un des problèmes qu'a posé le colloque. Mais pour moi, en tant qu'historien, j'ai peur que ce cycle et ces fluctuations que nous, on observe depuis la préhistoire jusqu'au monde contemporain, soit en train de disparaître, et cette fois-ci définitivement. Parce qu'il n'y a plus de steppe, il n'y aura plus de nomades, forcément.
Si je vous comprends bien, le problème n'est pas social, le problème n'est pas le combat entre les nomades et les sédentaires qui ferait disparaître les nomades, mais plutôt que les nomades n'auront plus d'espace où vivre et où nomadiser.
C'est un peu ça. Les nomades, je dirais, ayant parfois même tendance, par imitation, à s'autodétruire, c'est-à-dire à détruire le territoire même dont ils vivent. Si on ne prend pas quelques précautions, le grand danger, à mon avis, c'est la technologie. Je sais que mes collègues ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est la technologie, l'intrusion d'une technologie inadaptée à ce type de territoire risque de mettre ce territoire en danger. Parce que c'est un territoire fragile. Et donc, dès qu'on le brusque un petit peu, eh bien, il risque de se barrer. Un bon labour va pouvoir résister à des labours à 1 mètre ou 50 cm, ou même avec des charrues multisocs. Un bon champ va résister à toutes les technologies modernes. La steppe, ça va être, c'est extrêmement différent. La steppe, si on la caresse pas, si on la brutalise un peu, elle disparaîtra.
C'était ce matin le premier volet d'une émission intitulée « Steppe d'Arabie », une émission proposée par Lison Méric et Pierre Schlegel. À vous signaler le livre sur le même sujet et même titre, « Steppe d'Arabie », c'est un ouvrage collectif paru au cahier de l'IUED et aux éditions des presses universitaires de France. Rendez-vous demain, « Steppe d'Arabie », deuxième volet. Il sera question d'avenir et de développement des zones sèches. Alors à demain, les temps qui courent, c'est tous les jours à 11h.
Les temps qui courent.
Steppe d'Arabie, quel développement durable, deuxième et dernier volet de cette émission avec Françoise Métral, Paul Sanlaville et Ricardo Bocco, une émission proposée par Lison Méric et Pierre Schlegel.
Dans ce second volet, nous allons essayer de cerner l'avenir qui attend les nomades, les bédouins qui vivent dans ces steppes d'Arabie. La steppe, ou la zone sèche, comme on l'appelle parfois, est un milieu fragile qui est aujourd'hui soumis à une très forte pression à la fois démographique, environnementale et économique. Comment faire pour diminuer cette pression et quel modèle de développement peut-on proposer aux habitants de ces régions ? Françoise Métral.
La figure que l'on a du nomade, c'est le nomade chamelier. Et c'est grâce au chameau qu'il a pu être... Et puis c'est aussi la caravane. Bon, alors ce qui est aussi une image fausse, car si les caravanes se servaient des chameaux, elles étaient affrétées par des sédentaires et elles servaient au grand commerce. Mais c'est les images qu'on a du bédouin. Et on oublie souvent que le bédouin, à côté des chameliers, il y avait les moutonniers, c'est-à-dire le semi-nomade ou le petit nomade. Bon, aujourd'hui, les chameaux ont disparu, mais tous les bédouins, les tribus qui connaissent l'écologie et l'environnement, enfin, d'une partie, ces tribus se sont maintenues et elles ont gardé un intérêt dans l'élevage. Mais ça n'est plus leur seule source de vie. L'adaptation des populations s'est faite. C'est-à-dire, elle ne s'est pas faite uniquement parce qu'on a voulu les sédentariser, elle s'est faite au marché, aux conditions, etc. C'est-à-dire que bien souvent, ils ont maintenu d'un côté un troupeau qui, et d'autre côté, ils ont diversifié leur activité économique individuellement. On en trouvera dans l'armée, en Jordanie, on en trouve dans les transports. Ils se salarient, ils émigrent dans le Golfe pendant un certain temps, les années qui sont sèches. Et puis quand la steppe est de nouveau favorable, ils vont revenir faire des affaires dans la steppe, exploiter la steppe. Mais ils ont gardé une organisation sociale qui était liée à leur identité tribale et qui leur permet de jouer sur une économie à multiples ressources et d'avoir d'un côté des intérêts un peu plus collectifs. Le troupeau souvent est quelque chose, même s'il n'y a qu'une partie de la famille qui s'en occupe, est souvent une possession plus ou moins collective, et d'avoir à côté des activités, soit commerciales, soit salariées, etc. Et c'est cette diversité qui est au fond une forme de mobilité professionnelle, cette fois-ci non plus une mobilité physique, qui leur a permis... je crois, de s'adapter aux nouvelles conditions du marché et aux nouvelles conditions écologiques, à la restriction des pâturages, à la restriction de l'espace proprement de nomadisme, sans qu'il y ait, au contraire, avec une augmentation du troupeau. C'est ça le paradoxe. On a aujourd'hui une réduction de l'espace de pâturage naturel et on a une très forte augmentation du troupeau. Les troupeaux qui, en Syrie, tournaient autour de 2 à 3 millions au début du siècle, ont aujourd'hui varié entre 8, 12 ou 14 millions pour la seule Syrie. Bon, ils ne sont pas tous dans la steppe, mais souvent, dès que la steppe est favorable, la steppe est aujourd'hui ouverte, puisqu'elle n'est plus uniquement contrôlée par les tribus bédouines. Et donc, les années favorables, dès qu'il pleut et dès qu'il y a des pâturages naturels, tous ces troupeaux, même s'ils appartiennent à des sédentaires, même s'ils appartiennent à des semi-nomades, etc., vont venir pâturer dans la steppe. On a une situation très complexe aujourd'hui, beaucoup plus complexe peut-être qu'autrefois, mais qui accentue les complémentarités entre la zone steppique et la zone cultivée.
Paul Sans la Ville, géographe.
Maintenant, on a dans l'exploitation de ce que l'on appelle la steppe des moyens techniques qui sont disproportionnés par rapport à ceux que l'on avait autrefois. Autrefois, le nomade ou le semi-nomade vivait en relatif équilibre. S'il n'y avait plus d'eau ou plus d'alimentation pour le bétail, plus de pâturage, il quittait la steppe pour aller ailleurs. Et il y avait d'ailleurs des déplacements, qui étaient des déplacements saisonniers, liés à la végétation, aux cycles végétaux. Et en gros, les nomades, les troupeaux se trouvaient dans le désert pendant l'hiver, au moment des pluies, et pendant l'été, ils partaient au contraire dans les zones cultivées, voisines, où le bétail pâturait les chaumes. En gros, c'était cette situation-là. Et pendant ce temps, les pâturages pouvaient se reconstituer. Bien entendu, les choses variaient suivant les périodes. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait certaines périodicités, des périodes, un certain nombre d'années successives, qui étaient mieux arrosées que d'autres. Bon, et en fonction des pluies, les déplacements étaient plus rapides, plus lents, etc. Actuellement, on a des moyens qui sont disproportionnés par rapport à l'équilibre écologique de la steppe, c'est-à-dire qu'il y a le moteur en particulier, c'est-à-dire le camion, c'est-à-dire le tracteur. On peut amener l'eau, on peut déplacer les troupeaux, les gens sont beaucoup plus mobiles, et finalement, des troupeaux peuvent rester dans le désert en permanence si on amène l'eau et des aliments tout préparés pour le bétail, si bien que le bétail peut être là en permanence, piétiner le sol et détruire la végétation jusqu'à un point de non-retour. De la même manière que par les tracteurs, par les charrues, on peut faire des labours dès que des pluies paraissent suffisantes. On abandonne le blé en herbe, on le donne au bétail si on voit qu'il ne peut pas arriver à maturation. Il n'empêche qu'il y a eu labour, qu'il y a exploitation presque continue du sol, donc une érosion très forte par le ruissellement ou par le vent. Et c'est bien vrai que maintenant, il y a un déséquilibre qu'on a bien mis en valeur dans le Sahel, dans le sud de l'Afrique, mais qui est presque tout aussi évident en bordure du croissant fertile, où l'on s'aperçoit que le couvert végétal s'est très réduit, que les meilleures espèces sont en cours de disparition, ont été remplacées par des espèces beaucoup moins intéressantes, et qu'on n'a pas fait beaucoup de travaux, malheureusement, jusqu'à présent, mais on sait que le sol, le sable, l'argile sont très largement emportés hors du désert. Et il y a donc une sorte de caractère d'irréversibilité qui est en train peut-être de se produire dans certaines régions et qu'il faudrait étudier attentivement avant que l'irréversibilité soit absolument totale.
Est-ce qu'il faudrait comprendre qu'il y avait tout un savoir de précaution à l'égard de la steppe qu'on a pensé pouvoir abandonner grâce à la technologie, parce que la technologie pouvait permettre d'éviter ces précautions ?
Oui, il y a maintenant une pression sur la steppe qui est bien supérieure à celle qui existait autrefois. Une pression parce que il faut se placer dans la situation actuelle aussi, où la Syrie, la Jordanie, qui sont les pays les plus intéressés par la steppe dont on parle à présent, sont des pays qui ont connu une croissance démographique considérable, hors de proportion avec ce que l'on a connu dans des époques antérieures, sans doute, et que cette pression a amené la population en bordure de la steppe et de plus en plus loin à l'intérieur de la steppe. On est en train de cultiver de l'orge maintenant dans des zones recevant moins de 100 mm de précipitation, alors qu'on considère que la limite normale de culture des céréales, c'est environ 250 mm. Il y a donc des zones qui sont exploitées, fortement exploitées actuellement, alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. Ceci dit, on a des exemples précis d'occupation importante à certaines périodes de cette région de steppe, avec des populations sédentaires pratiquant agriculture et élevage de manière relativement intensive, sans le moteur, heureusement, à l'époque. Et on a le sentiment également, on en a même des preuves, je dirais, géologiques, géomorphologiques, que ça allait très loin et qu'il y a eu des phases d'érosion et déjà de relative désertification à cette époque-là. Mais la pression a cessé dès qu'il y a eu érosion trop forte pour que les gens puissent rester. En somme, les populations à l'époque étaient obligées d'abandonner la région quand les conditions de vie ne leur permettaient plus d'y rester. Il y avait à ce moment-là des populations, des placements vers l'extérieur, y compris les nomades qui pénétraient dans les zones sédentaires et de manière quelquefois relativement brutale. Alors qu'aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on reste davantage dans cette zone, on continue à l'exploiter coûte que coûte, et il me semble que le déséquilibre peut être plus important qu'autrefois. Et donc cette période de repos, en quelque sorte, qui est de l'ordre de quelques siècles qu'on a connue autrefois, entre des périodes de forte occupation et des périodes d'abandon, cette période de repos n'est plus possible maintenant. On n'aura jamais la patience de l'attendre, d'où des conditions qui sont beaucoup plus dramatiques que celles que l'on connaissait autrefois, me semble-t-il.
Mais cette pression de la population, vous avez bien souligné qu'elle est là parce que les gens qui s'installent en bordure de la steppe ne peuvent pas aller ailleurs. Donc comment imaginer pouvoir réduire la pression sur la steppe dans ces conditions-là ?
Là, c'est un problème, en effet. Il y a tout de même pour la compétence que je peux en avoir, il y a tout de même la possibilité de prendre un peu plus de précautions dans l'exploitation de la steppe, semble-t-il. C'est-à-dire ne pas autoriser des cultures dans les zones qui sont vraiment trop peu arrosées, faire en sorte qu'il n'y ait pas une quantité trop élevée de troupeaux, par exemple. Mais incontestablement, depuis quelques décennies, sur ces marges du désert, les gens ont pénétré très largement parce qu'ils étaient à la recherche de terrains à cultiver, de terrains sur lesquels vivre, même s'ils n'y sont pas en permanence.
Françoise Métrel, vous êtes ethnologue. On vient de souligner quels sont les problèmes environnementaux qui se posent actuellement dans ces zones qui sont soumises à une forte pression. Qu'est-ce que ça suppose pour les populations qui vivent dans ces zones?
Alors, pendant longtemps, on a pensé que ces populations devaient être sédentarisées. Les programmes de développement, jusque dans les années 70 ou 75, ont tous été des programmes qui ont visé à fixer ces populations, car on avait une idée du développement qui était un peu évolutionniste, où il fallait passer du pastoralisme à l'agriculture, et on voyait les solutions dans le développement des zones irriguées. Récemment, on s'est rendu compte que s'il fallait développer des zones irriguées, la steppe en tant que telle, en tant que zone sèche avec ses irrégularités telles qu'elles vous ont été dépeintes, était essentielle pour l'élevage. Et pour l'élevage moutonnier, dont on a un grand besoin, étant donné que la consommation en viande, les besoins de viande augmentent avec la population et avec la hausse des niveaux de vie. Donc, après avoir cherché à sédentariser ces nomades et avoir pensé même qu'ils l'étaient, car dans les statistiques, si on prend par exemple la Syrie, on a l'impression que dans le dernier recensement, il n'y aurait plus que 21 000 nomades, alors qu'ils étaient encore 300 000 au recensement de 1970. Il s'agit bien souvent d'une sédentarisation, j'allais dire, administrative. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme sédentaires parce qu'ils ont aujourd'hui au moins une maison en dur. Donc, à partir du moment où vous avez une maison en dur, vous avez un point fixe dans les catégories des recensements, vous êtes considérés comme sédentaires. Et donc, pendant, je pense, jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, on a bien un peu considéré que le problème du nomadisme s'était terminé. Il n'y avait plus de nomades, il n'y avait plus de chameaux, les populations, les bédouins, c'était une figure emblématique d'un passé, mais d'un passé qui renvoyait aux valeurs de la culture arabe, mais qui était techniquement dépassé. En fait, les besoins du marché en viande et a amené à une nouvelle attention aux productions moutonnières, et on s'est rendu compte que ces populations d'anciens bédouins qu'on pouvait par moment considérer comme sédentarisés avaient maintenu un élevage, même l'avaient développé, s'étaient adaptés techniquement et économiquement aux besoins du marché. Donc les populations n'ont pas disparu. Elles sont peut-être, même si on les considère aujourd'hui comme sédentaires, et ce n'est pas parce qu'elles ont une maison qu'elles ne sont plus mobiles. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elles sont fixées administrativement, elles sont enregistrées en un endroit, que les troupeaux ne bougent plus, et même que les populations ne bougent plus. Si on se promène dans la steppe syrienne, les années sèches, on va voir des villages complètement déserts. Je crois que M. Orange a travaillé sur le village de Der. C'est des villages qui peuvent être habités, avoir, je ne sais pas, 400, 500 habitants, 600 habitants, suivant les années, quand il y a des pâturages dans la palmyrène, et puis d'autres années, être totalement déserts. Ça ne veut pas dire que la steppe est abandonnée complètement, mais ça veut dire qu'ils sont obligés d'aller ailleurs. Et là, la mobilité est restée une des caractéristiques de ces populations.
Comment faire pour que la pression sur le milieu exercé par ces semi-nomades, appelons-les comme ça, ne soit pas excessive et ne risque pas de détruire complètement, c'est-à-dire de faire que la steppe devienne impropre même à ce type-là d'exploitation?
Alors, il y a des organismes de recherche comme ICARDA qui, eux, travaillent non pas sur la zone steppique, mais enfin, qui travaillent sur ce qu'ils appellent la zone de transition, la zone de culture d'orge, entre 250 et 350 mm. Et une des solutions qui est en...
Millimètres de précipitation par année.
De précipitation annuelle, qui ont toujours été une zone aussi utilisée par les nomades. C'était souvent la zone de campement d'été, puisqu'ils bougeaient. Hein. Mais, et donc, dans les recherches qui se sont faites actuellement, mais ça, il y aura des gens beaucoup plus compétents que moi pour en parler, une des solutions envisagées, c'est d'augmenter les productions céréalières ou fourragères dans la zone de transition pour pouvoir alimenter le troupeau toute une partie de l'année. Et donc alléger le poids du troupeau sur la steppe. De même qu'on pense que le développement des zones irriguées va fournir, et notamment dans la zone au sud-est d'Alep, par exemple, va fournir des chaumes à pâturer, des espaces à pâturer pour toute une partie du troupeau. Ça, c'est une des solutions envisagées. Des autres solutions sont, mais qui n'ont pas pu être adaptées, c'est-à-dire qu'on a des solutions techniques, mais on n'est pas arrivé à les mettre en pratique de manière extensive, c'est de planter des arbustes fourragers, de reconstituer en partie la flore pérenne détruite par les labours dans la steppe. Donc ça, on connaît les variétés. Je crois qu'on a envisagé différentes solutions. Mais pour le moment, le problème est que les solutions culturales qui ont été trouvées par les agronomes ne sont pas passées dans les pratiques, n'ont pas été acceptés dans les pratiques. Les expérimentations qui ont été faites ont plus ou moins échoué, soit parce que les moutons venaient pâturer trop tôt les arbustes qui avaient été plantés, soit parce que les populations de pasteurs nomades ne mettaient pas en pratique les conseils qu'on leur donnait d'alterner labour avec des plantations de fourragères ou de ne pas pâturer ou de ne pas labourer, etc. Les solutions ou les préservations qu'on a essayées pour la steppe, ne sont pas mises en pratique par les populations qui sont les premières intéressées par la steppe. Alors ça pose un problème.
Une question qui va vous paraître naïve, mais pourquoi ? Pourquoi cette résistance ?
Je ne sais pas si c'est une résistance, mais je crois que c'est d'une part parce qu'il y a une trop forte sollicitation économique pour le moment. Et c'est un problème de spéculation dans le court terme et de prévision dans le long terme. Une préservation de l'écologie, ça suppose de penser l'avenir dans le long terme. Or, ce sont des populations qui sont mobiles, qui l'ont toujours été, et elles ont, j'allais dire, dans leur propre culture, elles ne peuvent pas faire de projets dans le long terme, car les conditions climatiques, les alternances mais imprévisibles de sécheresse, etc., font que leur stratégie de survie a toujours été une adaptation très rapide, une flexibilité très grande, une adaptation très rapide dans le court terme à la situation présente. Donc eux ont tendance à réagir dans le court terme aux conditions et donc à exploiter la steppe quand elle est exploitable. Et surtout à exploiter, on n'exploite pas la steppe comme ça, on exploite la steppe aussi parce que ce qu'on produit dans la steppe ou ce que la steppe permet de produire se vend sur le marché. Or on est dans une situation de marché en augmentation, de prix en augmentation, malgré les fluctuations saisonnières ou les fluctuations même annuelles, la tendance, elle est quand même à des besoins croissants, donc un marché croissant, un marché qui s'est ouvert à l'ensemble de la péninsule arabique, ce qui fait que il y a toujours une incitation à produire, et à produire plus. Donc je crois que ça, c'est une première réponse peut-être, mais c'est aussi que les populations ne sont pas si pessimistes sur l'avenir de la steppe et que pour eux la disparition de pâturage naturel peut être en partie compensée par des labours et par une culture d'orge. Car, et ça c'est une grande discussion avec les agronomes. On a pensé à un moment donné que les bédouins pouvaient être les protecteurs de la steppe parce qu'ils l'avaient été autrefois. Or aujourd'hui, quand on regarde comment s'opèrent les cultures, si même les entrepreneurs de culture sont des sédentaires, ils ne cultivent que là où les bédouins veulent bien qu'ils cultivent, car le droit sur le sol a été maintenu par les bédouins. Et quand je dis les bédouins, c'est-à-dire les gens d'origine bédouine, qui sont souvent des semi-nomades, et qui, eux, vont avoir intérêt économique à cette culture, puisqu'ils vont toucher ils vont avoir 30 ou 40% de la récolte, s'il y a une récolte. S'il n'y a pas de récolte, ils pourront faire pâturer sur l'orge vert leur troupeau. Et donc, pour eux, je crois qu'ils entrevoient la culture d'orge comme une sécurité les années sèches. Dans ce raisonnement-là, il n'y a pas un raisonnement à long terme sur ce que va devenir sur la destruction des sols. Je ne crois pas que ça fasse partie pour le moment de leur stratégie.
Que propose-t-on aujourd'hui au niveau international pour ces zones arides et leurs habitants ? Ricardo Bocco.
Donc aujourd'hui, à quoi on assiste concrètement en termes de propositions au niveau national et international ? On assiste à une magnifique contradiction qui est celle au fond de reproposer un développement durable des régions de steppe en utilisant les organisations locales qu'on a essayé pendant 30 ans de casser, c'est-à-dire les tribus. Au moment des indépendances des États comme la Syrie, des États comme l'Irak, dans les années 50-60, le moment du baathisme triomphant, du nasserisme triomphant, de l'idée nationaliste par excellence, les tribus étaient montrées à doigt comme les ennemis principaux de l'idée nationaliste.
Parce qu'on n'arrivait pas à les faire entrer dans...
Parce que les tribus, la tribu non seulement ramenait à l'idée de primitif, mais ramenait de plus à l'idée de division d'une identité particulière et locale, anti-nationale. On s'est employé, en gros, pendant 30 ans, à chercher à détruire le système d'organisation politique, sociale, économique des tribus. Et on se retrouve aujourd'hui au niveau d'organisations internationales comme la FAO, par exemple, qui ont tenu récemment, en 91, en décembre, à Amman, une conférence pour proposer des solutions sur le devenir des régions sèches. Et la proposition est laquelle ? De réadopter le principe de gestion territoriale à partir des organisations sociales que sont les tribus, mais sans analyser, mais qu'est-ce que sont devenues entre-temps les tribus après 30 ans d'existence d'État, de politique de développement, d'économie, politique et autres, qui en effet ont transformé ces organisations sociales. Donc on est là en train, encore une fois, de projeter des modèles ou des images, mais concrètement, se posera la question de dire mais qu'est-ce que ça veut dire redonner à des tribus, lesquelles, où elles sont, comment fonctionnent-elles, qui gère qui, l'autorité politique, comment est-elle distribuée, d'essayer de leur redonner un pouvoir, au sens large du terme, de gestion des ressources dans les zones de steppe. Ben, sera un nouveau défi pour un certain nombre d'experts internationaux. De notre point de vue, ça pose un certain nombre de questions de fond sur le bien fondé de l'approche et sur les rationalités de ce genre d'opération.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Est-ce que ça veut dire que, selon vous, l'approche actuelle est vouée à l'échec ?
Je ne crois pas que, en tant que chercheurs en sciences sociales, nous puissions faire des affirmations disant sûrement ça est juste, ça est faux, etc. Ce que nous pouvons peut-être proposer, c'est d'observer des tendances et par rapport à ces tendances, de faire un certain nombre de prévisions. Hein. Alors là, ce qu'on peut se dire, c'est que avant même de mettre en œuvre ce genre de politique, je prends celle que la FAO est en train de prôner, j'aurais juste envie de demander à ces décideurs, mais qu'est-ce que sont pour vous les tribus au-delà de ce qui le sont dans votre tête, dans votre imaginaire ? C'est-à-dire concrètement, aujourd'hui, proposer une gestion territoriale à une entité appelée tribu, ça signifie réorganiser toute la législation foncière d'un État. Ce qui est quelque chose...
Ce n'est pas une mince affaire.
Non, ce n'est pas une mince affaire. Et ça a pris en termes... vous prenez un État comme la Jordanie, c'est depuis 1929 qu'il existe un cadastre, qu'il existe une législation qui a bien essayé de contribuer à la sédentarisation, entre autres, des nomades et à casser les territoires tribaux. Donc aujourd'hui, comment on remettrait ça en jeu en disant aux gens, mais au fond, allons nous rappeler, il y a 70 ans, comment les choses fonctionnaient.
Step d'Arabie, c'était le deuxième volet d'une émission proposée par Lison Méric et Pierre Schlegel avec Françoise Métral, Paul Sanlaville et Ricardo Bocco. À signaler l'ouvrage du même nom, du même titre, Step d'Arabie, paru conjointement aux éditions PUF et au cahier de l'IUED. À signaler également Une histoire des famines au Sahel, signée Boureima Alpha Gado, paru chez L'Harmattan. Rendez-vous demain, Médecins sans frontières face aux crises. Lison Méric recevra François Jean et Jean-Christophe Ruffin. Alors à demain, les temps qui courent, c'est tous les jours de la semaine à 11h.